Si j'avais un chien qui parle, déjà je serais riche. Voilà.
Ou pas, parce que potentiellement tout le monde s'en fout d'un chien qui parle.
Tu rigoles, ça ferait la une, j'en suis sûre.
Bah, Scooby-Doo, il l'a déjà fait, hein, donc.
Oh, putain, on avait oublié Scooby-Doo, c'est vrai ça?
Bah, tu as oublié Scooby-Doo. Moi, je n'oublie pas Scooby-Doo.
Qu'est-ce qu'on avait pu regarder ce film quand on était gamine?
Mais c'était trop bien.
Surtout celui où ils vont sur l'île
Bah oui.
avec Scrapidou là.
Bah oui, puis il y a Mister Bean.
Oh, incroyable, mais oui, c'est vrai, il y a Mister Bean.
Non, mais de toute façon, moi je trouve que ces films, ils sont sous-cotés de fou.
Hein. Alors après, d'un point de vue scénaristique, c'était pas non plus.
Ah non, mais attends, c'est quand même, je trouve, le meilleur casting qu'il ait jamais eu.
Oui, par contre, ça c'est vrai.
Et puis non, c'est trop bien, quoi. Ils ont quand même réussi à faire un. Bah, ce qu'on appellerait maintenant un live action.
Oui, c'est vrai.
Avec. Enfin, un truc crédible, quoi. Puis non, franchement, c'était cool, hein.
C'est pas
Franchement,
faux, c'est pas.
c'était. Moi, je trouve que c'était trop bien. En tout cas, en tant que gamin pré-ado, je trouvais ça trop cool.
Peut-être qu'il faudrait que je les regarde à nouveau pour me faire une nouvelle idée. Mais je pense que les effets spéciaux, ils ont mal vieilli.
Non, mais ça, oui, je pense. Mais après, je trouve qu'il y avait quand même des trucs. Tu vois, parce que. Alors, je sais plus si c'est justement quand ils sont sur l'île ou sur l'autre, ou dans l'autre. Mais, tu sais, à un moment, genre, ils se disputent et ils se séparent et.
Dans le 2.
Ah, c'est dans le 2, ok. Non,
Attends,
mais
dans
tu vois, il y a.
le 1, ils se disputent aussi, remarque.
Mais je sais plus. Non, mais il y en a un vraiment où tu sais, ils se séparent, ils vivent chacun leur vie.
Ah, c'est dans le 2, parce que dans le 1, ils sont tout le temps bloqués sur l'île. Que dans le 2, tu sais, ils vivent dans un. Genre, je sais pas comment ils appellent ça, la Scooby House ou une connerie comme ça.
Ouais.
Et ils sont célèbres de ouf, et je sais pas, il se passe un truc, ils se disputent, et il me semble qu'après, ils vivent de chacun de leur côté un peu, ils se
Oui, ok.
retrouvent que pour
Ouais, c'est ça. Ouais.
des events, tu vois.
Ouais. Ouais, non, mais donc tu vois, c'est un peu. Je pense que quand t'es adulte, tu vois ça en plus différemment, quoi. Tu vois, c'est pas juste.
Comme toutes les œuvres, de notre enfance, que ce soit littéraire, télévisuel, cinématographique, etc., etc., quoi.
Ouais. Non, mais voilà, je trouve. Alors, évidemment, c'est pas le chef-d'œuvre de ce début de siècle, mais je trouve quand même que c'est sous-coté. Parce que les films Scooby-Doo, bah, c'est quand même bien. Et moi, j'en ai des super souvenirs.
Du coup, comme vous pouvez vous en douter, vu que notre introduction le laisse totalement présager, on va parler de Gossip Girl, j'en suis sûre.
Sans transition aucune.
Non, aucune. Vraiment pas. Je voyais pas comment faire une transition entre Scooby-Doo et Gossip Girl. Là, j'avoue, j'étais un
Je
peu.
sais même pas comment on est arrivé à parler de Scooby-Doo. Si
Et on parlait de chien qui parle.
Ah, c'est ça, ok.
Bah, y a
Ok.
pas de chien qui parle dans
My
Gossip Girl.
bad. Ouais. Non. Bon, ça égayerait peut-être la série, remarque. Hein, mais.
Alors, de Gossip Girl. Donc le sujet, de toute façon, les gens ont cliqué, donc normalement ils ont vu le titre de l'épisode, donc c'est pas trop une surprise. Mais le sujet de cet épisode est donc Gossip Girl, sujet qu'on a pris un peu à l'arrache parce que on a fait un peu le tour des séries qu'on a regardées en commun jeunes.
Puis regarder de manière assidue, quoi.
Oui, regarder de manière assidue, on est assez calé sur la série en elle-même. Là, on tombe dans les séries maintenant qu'on a regardées soit de manière sporadique, mais en tout cas qui étaient quand on est jeune. Voilà, quand on était jeune. Gossip Girl, est-ce que tu veux nous faire un petit pitch, Pauline, de Gossip Girl? T'es mieux placée que moi parce que, alors, je tiens à dire, moi, je n'ai jamais regardé Gossip Girl. Je connais Gossip Girl, je sais qui est Gossip Girl,
Ouais.
que je sais la fin.
Bah oui, mais tout le monde le sait. Il n'y a même pas
Voilà,
besoin de regarder la série.
même en n'ayant pas regardé, je connais le principe et tout, mais je n'ai jamais regardé un épisode. Donc là, c'était le premier épisode de ma vie et c'était le pilote. Donc je ne suis pas très bien placée pour faire un résumé quand même.
Ouais. Non, mais je peux tenter le coup.
Vas-y.
Alors pour me dédouaner quand même, j'aimerais commencer par un préambule.
Elle s'excuse tout de suite, on sait pas pourquoi, mais elle
Je.
s'excuse.
Si, je m'excuse parce qu'effectivement, moi, j'ai regardé un petit peu cette série à l'époque. Alors, il faut savoir que j'avais juste succombé à la pression de mes pères et que je n'ai pas été en recherche, en tout cas, de cette série, vraiment, à vouloir absolument la regarder. J'avais juste des potes qui me gavaient « Oh, c'est trop bien, franchement, regarde, c'est trop bien, regarde. » Donc, j'ai fini par céder. J'ai regardé plusieurs saisons, je crois, jusque début de la quatrième. Et comme je n'étais pas une super fan et que les intrigues commençaient quand même gentiment à me gonfler, enfin les intrigues, si on peut plus ça des intrigues, j'ai abandonné, voilà, la série en cours de route, ce que je ne fais pas en temps normal, ce qui est quand même important à préciser, c'est-à-dire que moi je suis la nana, même quand une série me gonfle un peu, et ben je vais jusqu'au bout parce que j'aime bien terminer les trucs.
Oui, c'est vrai.
Mais pour Gossip Girl, j'avais pas eu tant d'état d'âme et j'avais arrêté. J'y suis jamais revenue. J'ai jamais eu envie d'y retourner. Et voilà. Et le pilote ne m'a pas donné envie d'y retourner non plus.
OK.
Voilà. Donc
Donc, le préambule terminé.
voilà. Pour refermer cette parenthèse. Donc Gossip Girl. Donc ça parle. C'est situé à New York. Enfin, l'action est située à New York. Et ça suit une bande de jeunes, alors lycéens, enfin censés être lycéens,
Ils
parce
ont
que
tous 30 piges là-dedans,
voilà, parce
c'est
qu'encore une
incroyable.
fois, on sent les acteurs qui ont entre 22 et 25 ans pour jouer des lycéens, mais bon, c'est pas grave. Vu ce qu'ils leur font faire, vaut mieux qu'ils soient majeurs et vaccinés. Donc voilà, une bande de lycéens riches, hein, clairement, de l'Upper East Side à New York, donc le quartier un petit peu fortuné de Manhattan. Donc concrètement, ce sont des gosses de riches. Et on suit les aventures et les problèmes de cette bande de gosses de riches lycéens à New York. Voilà. Alors bien entendu, ils ont une vie que les lycéens américains lambda n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils vont à des soirées de fous. Ils ont des parents pétés de thunes qui sont créateurs de mode ou je ne sais quoi. Et ils ont la vie d'adultes de 35 ans alors qu'ils en ont 16, quoi. Voilà. Je pense que j'ai résumé, hein. Je veux dire, ça. Non. Alors,
Oui, si.
non. Attends, petit truc que j'ai oublié quand même qui est important.
Oui.
En fait, cette bande donc de lycéens fortunés. Est un petit peu fasciné par un blog, parce que dans les années 2000, il y a des blogs.
Skyblog.
par un blog qui est tenu par alors une mystérieuse gossip girl qui, en fait, ra rapporte tous les ragots de l'Upper East Side, en fait, de leur quartier et les aventures de chaque lycéen. Donc voilà, c'est un personnage un petit peu nébuleux. En fait, on ne sait pas qui c'est, la gossip girl.
Ouais.
Mais voilà, elle est au courant de tout ce qui se passe et elle rapporte les faits les plus scandaleux dans son blog. Et donc tout le monde est au courant. Elle propage les rumeurs et les potins. Voilà.
C'est vrai. Non, c'est bien résumé parce que c'est globalement ça. Hein. C'est ce que tu as dit. Moi, pendant que je me faisais le résumé, je me suis dans ma tête, j'étais en train de me faire une checklist. C'est un peu le Newport Beach. Mais de la côte est. Et quelques années plus tard. Enfin, il y a quand même des clichés sur les gens très très riches de chaque côté. Ils vivent des problèmes de très très riches. Ils ont
Oui.
des acteurs qui n'ont pas l'âge d'être des lycéens, mais qui jouent des lycéens. Ils vivent des vies d'adultes. En fait, quand tu as expliqué ça, j'étais là en mode oui, c'est un peu Newport Beach. Mais avec ce côté mystérieux supplémentaire que tu as expliqué sur ce blog créé par Gossip Girl dont on ne connaît pas l'identité. Et pendant 6 saisons, on va se demander qui c'est, qui c'est, qui c'est. Et à la fin, quand on sera tous What? Mais c'est fou! Voilà. Petite anecdote. Tu sais
Oui.
qui c'est qui fait la voix off de Gossip Girl?
Oui, c'est Kristen Bell.
Effectivement. Kristen Bell, du coup, n'est pas créditée au générique au départ.
Non.
Elle n'a jamais été, je crois d'ailleurs même en fait, je te dis de départ, mais je crois qu'elle n'a pas été du long de la série, parce que la série a duré 6 saisons, donc de 2007 à 2012. J'ai l'impression qu'entre 2007 et 2012, c'est l'année où, enfin, ça fait partie des années où il y a eu les crises, la crise des scénaristes, la grève des scénaristes aux États-Unis, ce qui expliquerait pourquoi ça fait pas 6 ans pile, mais 6 saisons, ils ont dû couper des saisons et faire des moitiés de trucs.
Ou parce que ça perdait aussi peut-être en audience et
Peut-être.
c'est possible, hein.
Mais toujours est-il que donc Kristen Bell, dès le départ, a fait la voix off de Gossip Girl, parce que Gossip Girl le narre les événements qu'elle relate en voix off dans la série. Donc on l'entend raconter les trucs qu'elle va taper dans son blog en fait. Donc Kristen Bell a été choisie pour, c'est une femme, donc du coup pendant 6 saisons tout le monde était persuadé que ce serait une femme.
Bah, puis son pseudo c'est Gossip Girl quoi en plus.
Et son pseudo c'est Gossip Girl. Et spoiler alerte, mais bon la série est terminée depuis 10 piges donc pourquoi en fait c'est pas du tout une fille, c'est Dan, un des personnages principaux dont on va vous expliquer l'existence tout à l'heure, qui est la Gossip Girl. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup parler parce que Kristen Bell pensait, elle aussi, qu'elle jouerait le rôle de Gossip Girl à la fin.
Bah, ce qui aurait été super logique, quoi, mais bon.
C'est ça. Peut-être qu'ils savaient pas trop où ils allaient en commençant ce concept.
Non, clairement, je pense pas, parce que je sais que j'avais vu des trucs après sur Internet où, déjà, quand, à la fin de la série, ils ont dévoilé que c'était Dan, il y a plein de fans qui ont été super déçus.
Oui.
Et en plus, surtout, il y en a après les fans un petit peu tarés qui se sont refait un peu toutes les saisons pour analyser les trucs. Et clairement, il y a des trucs qui tiennent pas ou ça peut pas être Dan en fait. Tu vois, si tu revois certains épisodes, apparemment, il y a des trucs où tu te dis c'est pas possible, ça peut pas être lui.
Et pourtant, dans l'épisode de pilote là qu'on a regardé aujourd'hui pour le podcast, on voit la première personne qui consulte le blog de Gossip Girl en direct sur un écran qu'on montre en tout cas face à un ordinateur, c'est lui.
Oui, c'est vrai.
Tous les autres sont sur leur les premiers smartphones de l'époque qui n'ont pas du coup toutes les options qu'on a nous, mais qui ont accès quand même à Internet. Donc tous les autres checkent sur Internet ce qui se passe sur le site de Gossip Girl et tout. Et lui, c'est le seul qu'on voit face à un ordinateur. Donc il y a quand même ce truc, je me suis dit, ok, est-ce qu'il savait vraiment pas où ils allaient ou est-ce qu'au contraire c'est une chance?
Ouais, c'est peut-être juste un hasard, je sais pas trop.
C'est arrivé à la dernière séance d'écriture, quand ils sont réunis, ils ont dit, bon, c'est qui Gossip Girl?
C'est ça.
Ils ont plongé dans le pilote, ils ont dit, bah tiens, ce sera lui, parce qu'il était devant un PC. Ouais, voilà. C'est possible aussi. Hein.
Oui, c'est possible aussi.
Est-ce que tu veux présenter le pilote et les personnages, ou pas?
Je sais pas trop. Non, vas-y, je te laisse faire.
Ok. Ça va aller vite, hein. Il se passe pas grand-chose, donc ça va aller relativement vite. L'épisode pilote, du coup, de Gossip Girl, en anglais s'intitule pilote. Donc j'avoue qu'en français, j'ai pas regardé, mais en anglais s'intitule pilote. Et il nous présente un certain nombre de personnages qui sont relativement faciles à catégoriser, à classer, et dont les interactions sont assez faciles à lire dès le départ.
Mm.
Donc l'épisode s'ouvre sur la gare Grand Central de New York, hein, avec un personnage féminin, qui s'appelle Serena, qui est jouée par Blake Lively, ça c'est important de le préciser, parce que je crois que c'est le seul rôle dans lequel on la connaît vraiment.
Quand même. Bah maintenant, elle fait quand même des films, elle fait autre chose, mais c'est ça qui l'a lancé, quoi, vraiment. Ouais.
Donc l'épisode s'ouvre sur Grand Central à Manhattan avec le personnage de Serena, donc joué par Blake Lively, qui arrive de manière un peu surprenante à l'écran. Elle débarque, on ne sait pas trop qui c'est, et la voix off, qui est donc Gossip Girl, nous raconte que Serena revient dans le Paris Side après une disparition assez longue. Personne ne sait pourquoi elle a quitté la ville, mais pourquoi, comment, quoi. Bref, mystère. Au même moment, dans la même gare, arrive un autre personnage qui... Trois autres personnages, je devrais dire, qui vont être assez importants. Donc Dan, sa sœur Jenny, et leur père qui s'appelle Rufus. Donc tous les... Oui, bah Rufus.
C'est un nom de clébard, pardon, mais c'est pas un nom de clébard.
Mais je pense que ça va avec le personnage qu'on voulait me présenter, parce que Serena, donc tout de suite, on comprend que c'est... Enfin, elle va dans le Paris Side, en plus Gossip Girl parle d'elle, donc on sait que ça fait partie de la haute, et qu'elle fait partie de cette jeunesse dorée qui lui fait rêver, quoi. Très vite, on comprend que Dan, sa sœur et son père sont pas du même milieu. C'est assez flagrant. Tous ces personnages-là évoluent dans les mêmes cercles, mais n'appartiennent pas au même milieu social, quand même.
Mm.
Donc Serena revient, Dan arrive lui aussi à la gare pour retrouver sa famille. On continue les présentations des personnages en nous montrant ensuite un après-midi, je devrais dire, parce qu'on dirait qu'il est 16h.
Ouais, grave.
Et ils sont tous en tenue de soirée, en tenue de bal, pour boire des cocktails à 16h, mais bon, ils veulent. Hein. on nous montre une soirée avec tous les gens de l'Upper East Side, et là-dedans, on nous présente autour de petites conversations les futurs personnages principaux de la série. Donc, on a Blair, l'ancienne BFF de Serena, mais elles sont plus meilleures copines, pourquoi donc ? Grand mystère ! En fait, le mystère dure deux secondes, parce qu'après, on nous présente le petit ami de Blair, qui aime bien aussi Serena, apparemment.
Voilà.
Il s'appelle Nate. On nous présente le bad boy des riches, on va dire, qui s'appelle Chuck.
Mm-hmm. Alors, le connard des riches, moi j'aurais plutôt dit, le red flag ambulant des riches.
On aimera dessus, c'est tout à fait ça. Et on présente en même temps leurs parents à tous ces personnages adolescents. Donc, on rencontre la mère de Serena, la mère de Blair, le père de Nate et le père de Chuck. On ne le rencontre pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Mm.
Et du coup, on rencontre tout ce petit monde qui évolue. On comprend très vite leur interaction. Le départ de Serena a bouleversé tout le monde dans la haute société. Genre, pourquoi est-elle partie ? Comment ? La vie, bref.
Mm.
Et tous ces personnages, à son retour, sont assez surpris parce qu'aucun d'entre eux n'était au courant qu'elle rentrait. Encore moins son ex-meilleur ami, Blair. Et tout le premier épisode tourne autour des dynamiques de pouvoir entre ces personnages. Serena qui veut reprendre sa place de hit girl au sein du groupe. Blair qui, elle, n'a pas du tout envie que Serena reprenne sa place. Parce que si elles étaient BFF, on comprend très vite que Serena avait un rôle plus important dans le groupe d'amis que Blair. Mm. Plus d'impact, en tout cas, plus d'influence, plus de charisme, plus de tout ça. Et donc, va se livrer une petite guéguerre entre ces deux personnages-là, et les autres vont être un peu là pour faire décor, avec, vite fait, des intrigues secondaires et des problématiques secondaires, mais qui tournent autour toujours de « je veux faire partie de la haute » ou « je veux faire partie de ces soirées-là » ou « je veux être intégrée dans ces soirées-là ».
Ces soirées-là, pardon.
On a pas la référence de Yeux, je te laisse.
Ah bah écoute, hein, voilà, on est né au siècle dernier, ça commence à se sentir.
C'est pas faux. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la présentation des personnages et de comment ils évoluent, etc. L'épisode est assez... Enfin, il suit un déroulement chronologique assez linéaire. Et nous présente Serena qui revient dans l'Upper East Side, qui nous fait comprendre à demi-mot pourquoi elle est partie il y a des mois de ça. Elle est partie parce qu'elle a couché avec le petit copain de sa meilleure amie. Ça la fout mal, quand même.
Ouais, c'est un peu extrême de se barrer dans un autre état, mais bon, pourquoi pas.
Après, on sait qu'elle est partie dans cet autre état pendant très longtemps. Vu que c'est une réaction un peu extrême suite à une tromperie, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Ça nous laisse un peu sous-entendre l'épisode pilote qui a des trucs plus en jeu, mais ils n'en parlent pas trop. On comprend que Serena a une famille un peu compliquée, avec une mère qui a divorcé plein de fois, donc qui a beaucoup d'argent de ses anciens maris très riches, mais qui est toute seule actuellement, et qui s'occupe donc de Serena et de son petit frère, et le petit frère a fait une tentative de suicide il y a peu. Voilà. Globalement, c'est ça.
Mmh.
On peut rajouter que Dan, qui est donc celui qui va dans l'école privée avec tous ces gens très riches, mais qui n'est pas très riche, hein. Son père est une ancienne rockstar désavouée qui maintenant gère une galerie d'art.
Ouais.
Donc ils n'ont pas beaucoup de sous, mais Dan, lui, il est trop in love de Serena, qu'il ne connaît pas du tout d'ailleurs, hein, parce qu'il observe de loin depuis des années.
Bah, c'est un crush, quoi. Voilà, c'est le garçon, personne ne sait qui c'est, il a un crush sur, sur la plus belle fille du lycée, quoi. Voilà, c'est un peu cliché. Mais à la limite, c'est assez innocent, assez mignon, quoi, on va dire.
Oui, ça reste mignon.
C'est pas le pire truc de l'épisode, je trouve. Hein.
Non, c'est loin de là. C'est clairement pas ça. Et sa petite sœur, Adan, faut qu'on le mentionne quand même aussi. Elle aussi, elle va au lycée privé toute cette petite troupe.
Mm.
Et elle fait tout pour intégrer les soirées de ce milieu-là, faire partie de la bande. Ce pilote présente bien les personnages, on peut pas lui retirer ça. Peut-être que c'est ce qui a permis à la série d'être produite après, c'est que le pilote présentait suffisamment de personnages sans en dire trop, que t'avais envie de savoir la suite, quoi.
Oui, sûrement.
Ah, le scepticisme carré. Alors du coup, là tu disais que toi le pilote t'as pas donné envie de revenir à regarder Gossip Girl.
Pas du tout.
Moi j'avoue, Ça pourrait être une série que je laisserais en fond pendant que je fais de la cuisine ou une connerie comme ça. Je pourrais pas me concentrer dessus trop, mais il y a deux, trois trucs qui m'ont titillé. Après, il y a d'autres trucs qui m'ont tellement dérangé que je me dis, au final, je regrette pas de pas avoir passé trois saisons dessus. Mais toi, à l'époque, à part la pression de tes pères, qu'est-ce qui t'a fait rester? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a fait rester?
Honnêtement, en fait, je sais même pas parce que justement, en regardant l'épisode, c'est vrai que je me suis demandé, je me suis dit, mais alors pourquoi j'ai regardé quand même autant d'épisodes? Honnêtement, je sais pas parce que vraiment, je sais qu'à l'époque, déjà, j'étais pas fan de la série, quoi. Tu vois, j'étais pas en pamoison devant certains persos comme certaines potes à moi. Enfin,
Ouais.
je sais pas. Je pense qu'il y avait un peu l'attrait du. Comme tu sais, comme je t'avais dit pour Newport Beach, le côté strass paillettes
Ouais.
qui est tellement loin de ta vie que ça fait un peu rêver. Mais après, en fait, ce côté-là aussi, c'est ça aussi qui m'a gavé dans la série, c'est-à-dire que les intrigues incessantes qui n'en sont pas, enfin, au final, tout le monde finit par, tu sais, c'est un peu comme les feux de l'amour, tout le monde finit par coucher avec tout le monde. Ça se sépare, ça se remet ensemble, ça se sépare, ça se remet ensemble.
Ouais.
Blair et Chuck ont une relation super toxique.
Oui, ça c'est. Je me souviens des posts sur Tumblr à
Enfin, franchement, quand j'y repense, tu vois, à l'époque, jamais on aurait dit ouais, c'est une relation toxique, c'est un pervers narcissique et tout. Mais en fait, c'est clairement ça, quoi. Enfin, je sais que ça me gavait justement cette espèce de. Et puis en fait, c'est que le problème, c'est que il sortait jamais de ses problèmes de riche, tu vois, si tu veux, parce que
Ouais.
il me semble que je me souviens d'une intrigue où c'est le père de Nate qui, tu sais, un peu comme le père de Marissa dans Newport Beach.
Ah, j'allais dire, il y en a un qui doit perdre son argent sinon ses parents.
Voilà, enfin, il me semble, hein, je veux pas, il y a sûrement des puristes qui connaissent bien la série et peut-être que je dis une connerie, mais il me semble qu'il y a une histoire avec le père de Nate qui, voilà, qui fait aussi des investissements foireux et qui perd un peu la fortune. Donc, tu sais, c'est un peu la honte, la famille Archibald est déshonorée, enfin voilà, c'est affreux.
Ça me fait penser à Mulan. Déshonneur sur toi, déshonneur sur
Sur
ta
ta
vache,
vache.
déshonneur sur ta famille.
Ouais, non, mais c'est un peu ça en fait. Et tu vois, donc ça reste quand même des problèmes. Ouais, des problèmes de riches. Et ils sortaient jamais de ça, dans mon souvenir en tout cas. Enfin, vraiment, je n'y trouvais pas d'intérêt en fait. Et j'ai arrêté parce que vraiment la série m'énervait en fait. C'était pas juste une lassitude. C'était en plus vraiment, ça commençait à m'énerver.
Tu l'as regardé avant ou après Newport Beach?
Après, parce que Newport Beach, comme on disait, on regardait à la télé. Alors, on avait, oui, enfin, quand la série n'était pas encore terminée, tu vois, on a regardé déjà les premières saisons. Que déjà, Gossip Girl s'est sorti un peu après.
Ouais.
Et puis, moi, en plus, j'ai pas regardé tout de suite. J'ai dû attendre. Enfin, j'ai commencé, je crois qu'il y avait déjà une ou deux saisons de sortie.
Ouais.
Donc oui, je l'ai regardé après, j'étais un peu plus vieille. Mais ouais, j'ai vraiment un souvenir d'un. Genre, ça me saoule. Genre, j'en ai marre, ça n'avance pas, c'est pas intéressant, en fait, et il se passe rien. Tu vois, c'est.
Ouais.
Et en plus, c'est des. Ouais, c'est. C'est des problèmes. Enfin, je veux dire, genre, j'aimerais bien avoir vos problèmes, tu vois, c'est vraiment. Et puis en plus, c'était toujours un espèce d'aller-retour, genre. Parce que là, même dans le pilote, on nous présente, alors soi-disant, Serena et Blair, elles étaient censées être BFF. Et en fait, tu comprends très clairement que enfin, c'est pas de l'amitié, en fait. Enfin, pour moi, ça ne peut pas, on peut pas appeler ça de l'amitié.
Oui, c'est
Parce
que
que Blair est jalouse de Serena puissance 10 000.
Oui, ça c'est clair.
Serena, je pense. Enfin, tu vois, je pense pas que l'inverse soit vrai. Par contre, tu te dis que Serena a quand même couché avec le petit copain de sa copine, donc
Ouais.
potentiellement l'amitié, bof bof. Et en fait, dans mon souvenir, toutes les saisons, c'est ça, elles ont un rapport un peu amour-haine. Sauf que encore une fois, moi, je vois pas vraiment de l'amitié là-dedans, quoi. Et donc c'est ça. Donc voilà. Alors ils font changer. Serena et Nate, je crois, se mettent ensemble. Blair et Chuck. Blair avec quelqu'un d'autre. Nate avec quelqu'un d'autre. Et puis tu sais, quand ils ont fait tout le tour, ils amènent des nouveaux personnages qui restent une saison juste pour coucher avec le personnage déjà existant.
Oui, d'accord.
Ouais. Enfin non, mais il y a des trucs comme ça. Tu vois des personnages qui arrivent au bout de la troisième saison en tant que, en tant que partenaire amoureux. D'un personnage, tu vois. Et
Ouais.
alors évidemment, on lui donne des intrigues aussi. Mais enfin, c'est voilà, ça passe toujours par la relation amoureuse et le. et la jalousie et le machin. Enfin bon, voilà. Pour moi, c'était ultra répétitif, sans intérêt. Et voilà.
Ok. Non, mais c'était pour savoir, parce que là, quand je disais, il y a des trucs que je pourrais... Enfin, c'est une série que je pourrais peut-être prolonger en mettant en bruit de fond.
Mm.
Mais qu'il y a quand même des trucs qui m'avaient dérangé. Ces trucs qui me dérangent feraient que je pourrais pas du tout m'attacher à cette série. Ni m'investir dans les personnages. Et ça, c'est déjà présent... Enfin, pour moi, c'est déjà trop présent fortement dans le pilote.
Mmh.
Cette espèce de caractérisation c'est pas désinvolte, mais une caractérisation à la va-vite des persos. En gros, ils sont tous un peu trop unidimensionnels à mon goût.
Mmh.
Après, tu me diras, un pilote, des fois, c'est compliqué d'aller plus loin, c'est trop court. Vraiment creuser des personnages, mais là tout ce que tu racontes sur les dynamiques toxiques entre les persos, est-ce que c'est déjà existant?
Oui.
On retrouve, en fait, on n'a pas l'impression que ces gens ils s'apprécient, ils se côtoient par obligation parce que ils ont tous les parents qui évoluent dans le même cercle, et même les parents se côtoient par obligation, par business.
Ouais.
Le père de Nate lâche à demi mot déjà qu'il faut qu'il fasse affaire avec la mère de Blair, mais que en gros, du coup, ça serait bien que son fils il reste avec Blair pour pas faire clasher le deal.
Mm.
Donc déjà, les parents utilisent les enfants à leur fin, bof, c'est moyen. Et ensuite, Nate se pose pas la question du tout de savoir si c'est honnête ou pas honnête, si c'est juste ou pas juste de faire ça. Il y va, genre ouais. Ouais. Donc il est en relation avec Blair, alors qu'on sent clairement que c'est pas avec la personne avec qui il voudrait être. Blair se sert de Nate aussi, tout pareil. Au début de l'épisode, dès qu'elle apprend via le site Gossip Girl que Serena est revenue à New York, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette sur Nate en disant bon bah ça y est, c'est bon, je suis prête, est-ce qu'on couche ensemble pour la première fois?
C'est ça, comme si ça allait empêcher qu'il se barre avec Serena s'il en avait envie, quoi. Enfin,
c'est ça. Donc,
L'estime de soi de la nana, quand même, quoi. C'est vraiment.
Bah, l'estime de soi, après, elle fait ce qu'elle veut de son corps, mais
là, oui, c'est mais vraiment. Tu vois, se dire je vais le retenir en couchant avec lui, quoi. C'est quand même.
Oui, c'est plus ça, c'est quel outil tu utilises pour retenir. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Si Chuck, on le présente comme un commentateur sarcastique, ironique de tout ce qui se passe, genre le mec il est au courant de tout, il va menacer, enfin la dynamique des relations qu'il a avec les autres, c'est vraiment de la menace, du chantage.
Mm.
Le premier truc qu'il fait, il menace et il fait chanter Serena en mode si tu couches pas avec moi, ben, je vais dire à tout le monde pourquoi t'es partie. Hein. Bah, connard. Et en plus, après, il force le truc. Enfin, vraiment, on assiste à une scène d'agression sexuelle.
Mmh.
Voilà. Et en plus, c'est ouf. C'est ça qui est dingo. Tu te dis, putain, d'un point de vue processus d'écriture, les mecs, vous avez zéro idée, quoi. Il l'agresse donc sexuellement Serena qui se débat et qui finit par lui mettre un coup de genou dans les parties. Et du coup, le mec s'arrête.
Mmh.
Mais elle porte pas plainte, rien du tout, voilà, c'est Chuck. Enfin, ce qu'on nous fait comprendre quand même de manière un peu désinvolte, c'est oui, non, mais c'est Chuck, c'est lui, il fait ça tout le temps, quoi.
Oui, bah c'est Boys Will Be Boys, quoi, c'est...
C'est ça. Et ce fameux Chuck va recommencer exactement la même chose avec la sœur de Jenny, avec Jenny, la sœur de Dan, du coup.
Ouais.
Lors de la soirée où Jenny voulait absolument aller, etc. Donc, Jenny y va... Chuck la dragouille, fait semblant d'être un mec sensible, je sais pas quoi et tout. Elle sent qu'il y a quand même une couille dans le pâté parce qu'elle envoie un texto rapidement à son frère en mode viens me chercher.
Mm.
Ça pue.
Ouais.
Donc elle sent quand même le truc. Elle a pas les codes de la haute société, mais elle a les codes de vie avec des hommes, quoi. Genre elle comprend ce qui est en train de se passer. Et elle se débat, etc. Et c'est Dan et Serena qui viennent la sortir de là. Après, mais Chuck, dans le même épisode, il a deux scènes majeures où il est dedans, et les deux scènes majeures où il est dedans, il agresse sexuellement des femmes.
Voilà, donc c'est dire déjà le développement du personnage, quoi.
Et moi, je me souviens, à l'époque, parce que je regardais pas Gossip Girl, mais j'étais sur beaucoup de... J'étais sur Tumblr, enfin bon, j'avais, voilà. J'évoluais sur des sites internet où ça parlait beaucoup de séries, beaucoup de films.
Mm-hmm.
Et Gossip Girl étant au maximum de sa hype. Mm. Tout le monde en parlait. Et Gossip Girl influençait énormément le style vestimentaire de plein de gens.
Ouais.
La façon de parler, la façon de consommer. Il y a beaucoup de produits vestimentaires ou accessoires qui était dans Gossip Girl, qui se retrouvait dans le top des listes d'achats de mes potes. Mmh. Et moi, autant j'étais pas trop de ce côté-là, autant par contre sur les sites où il y avait parlé beaucoup de films et de séries, on reparlait beaucoup aussi de Gossip Girl et on parlait aussi beaucoup des personnages, de Chuck et tout. Et je me souviens qu'il y avait un truc du « Ah ouais, mais Chuck, il a changé, je sais pas quoi. » Genre limite, il avait eu un arc de rédemption dans la série. Mmh. Alors que tous les gifs qui passaient, parce que c'était la grosse époque où on gifait les séries,
ouais.
Tous les gifs qui passaient, c'était que en fait, la suite de ce qu'on voit dans l'épisode, c'est-à-dire du chantage affectif, du harcèlement, des agressions. Enfin, t'es là, tu te dis, mais ce gars, il a pas du tout d'arc de rédemption. Il a un arc d'agression de A à Z. Le seul truc où il évolue, c'est qu'au fait, au lieu de coucher avec 60 filles, il le fait avec une fille, tout ce truc-là.
Et encore. Hein.
Ouais, vite fait. Mais quand il est en relation avec Blair, quoi, c'était le...
Et ben justement, il me semble qu'il y a un truc super malsain quand ils sont... Parce que c'est leur relation, enfin, dans mon souvenir, encore une fois, je veux pas heurter les puristes de la série avec mon manque de connaissances, mais il me semble que donc, leur relation dure sur plusieurs saisons.
Ouais.
Et c'est pareil, c'est un truc de je t'aime moi non plus, donc ça se sépare, ça se remet ensemble, ça se sépare, ça se remet ensemble. Mm. Et il y a aussi, dans mon souvenir, un truc super malsain de un peu de chantage affectif, tu vois, où en fait il sait que Blair est amoureuse de lui, et alors on est censé comprendre qu'il est amoureux d'elle. Mais en fait, tu vois, je sais pas quoi, c'est un gars trop blessé intérieurement et donc il veut pas dire à Blair qu'il l'aime. Enfin, tu vois, t'as un truc comme ça et donc ils finissent par s'engueuler, ils s'engueulent tout le temps et même des fois, il emballe d'autres nanas devant elle. Enfin, tu vois, un truc super malsain en fait, ok, je sais que tu m'aimes, mais en gros, moi, je suis trop torturée pour te le dire et donc, bah, quand on s'engueule, et bah, je vais aller chercher du réconfort avec d'autres meufs. Enfin, tu vois, un truc super malsain, quoi. Enfin,
bah, c'est malsain d'autant plus que c'est pas... Parce qu'il y a des relations où des gens vont voir ailleurs pour exciter dans leur couple et tout. Et tu vois, tant que c'est dans la relation, que c'est consenti, que c'est...
Okay. Ah oui, mais là, c'est clairement pas ça. Hein.
Mais c'est ça. C'est que là, on nous montre de manière assez frontale que c'est... Enfin, voilà, Chuck, il n'a pas d'autre manière de relationner avec les gens que par une forme de violence, en fait.
Mm.
Que ce soit de la violence verbale, de la violence physique, de la violence morale. En fait, il est violent, et c'est comme ça qu'il interagit. Et moi, je me souviens de tout un tas de copines qui étaient ultra fans de Chuck. C'était un peu comme nous, hein, avec Kundo Stress, où c'était Pedro ou Roberto. En fait, quand il réfléchit maintenant, c'est ni l'un ni l'autre. Et ben là, c'était pareil. Je me souviens des grands débats de Chuck ou Nate. Ni l'un ni l'autre. En fait, aucun des deux ne vaut le coup. Hein, parce que c'est une dynamique compliquée.
Et encore, je trouve que dans Undo Stress, c'était... Alors, ils étaient problématiques, mais on était quand même pas sur
des
prédateurs et de l'agression, voire des viols. Enfin, tu vois, on était quand même... C'était un peu plus gentil, et quand même, là, on est sur un... Et puis, les personnages étaient plus vieux. Là, on est quand même sur un perso qui a 16 ans.
Oui, qui est censé avoir
17 ans, et qui est déjà un gros prédateur qui méprise tout le monde.
Oui, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a ce côté de... Enfin, tu vois, cette série, elle faisait partie, quand je disais mes potes se battaient sur Chuck, Nate et tout, en fait, c'était un peu le cliché, et ça se voit tout de suite dès le premier épisode de manière visuelle, en plus, c'est ça qui est dingue.
Mm.
Le cliché du bad boy, good boy.
Ah, mais tellement.
Où Nate, il est tiré à quatre épingles, il a une petite coiffure
vraiment
dominée. La famille Le Quesnoy, la vie est un long fleuve tranquille, enfin voilà, voilà, avec un peu de pommade, et puis... surtout ramené sur le côté avec une raie sur le côté.
Ouais.
Et à côté, Chuck, il est débraillé. Enfin, il a des fringues, tu sens à 15 000 que ça coûte 4 fois ton loyer.
C'est ça.
Et que tu pourras jamais te le permettre. Mais sa chemise n'est pas rentrée dans son pantalon. Il a une cravate avec un nœud un peu défait. Mm. Même si la cravate doit être en soie de je sais pas qui. Elle est défaite. Il a une coupe de cheveux. Le prêt de Justin Bieber, tu vois, un peu long, oui. Ramené sur le front et tout. Physiquement, on nous le présente comme un bad boy.
Ouais.
Et Nate, on nous le présente comme un good boy. Et il y a cette espèce de fantasme qui est créé et qui devait faire vendre chez les minettes, entre guillemets. Mm. J'aime pas trop ce terme, mais je pense que c'était la notion visée par ce choix marketing de personnage. Mais ouais, t'avais ce truc de ok, good boy, bad boy, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et on normalise des comportements qui sont problématiques dans des relations. Le fait de devoir être violent pour relationner, ça excuse un peu. C'est un peu du même acabit que oh, mais il t'aime bien, c'est pour ça qu'il te tire les couettes, tu vois. Mmh. Non, la réponse est non. On ne tire pas les couettes des gens quand on les aime bien. On exprime qu'on les aime bien, mais on tire pas les couettes, point. Et du coup, Chuck, il est clairement là-dedans. Et à côté, Nate, c'est le mec trop gentil, qui est amoureux, mais en même temps, c'est dur parce qu'il est amoureux et tout. Bref. Et on lui explique, on lui pardonne plein de choses aussi. Et dans le pilote, je trouve ça très visible. Mm. Et ce qu'il pouvait faire vendre à une époque, parce que bah, l'époque voulait ça, mm. Ferait qu'aujourd'hui... c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le reboot de Gossip Girl n'a pas fonctionné.
Ouais. Parce qu'ils après, ont fait je sais pas comment ils l'ont... Tu vois, est-ce qu'ils ont vraiment rebooté tel quel ou ils ont ouais. peut-être rebooté ça quand même à la sauce 2020. Mais oui, je pense qu'effectivement, ça, en fait, Gossip Girl, ça a marché parce que c'est sorti à l'époque où c'est sorti, en fait. Oui, bien sûr, je pense que c'était une atmosphère où ça faisait que ça pouvait marcher. Mm-hmm. Et effectivement, enfin, moi, mes copines qui étaient fans de la série, elles étaient toutes fans de Chuck. C'était...
Ouais.
Enfin, elles bavaient, mais vraiment, elles, quand je te dis elles bavaient, c'est vraiment elles bavaient. C'était « Oh, le bad boy, non, mais en fait, tu sais, il est incompris. »
Oui, tout, mais oui.
Tu sais, le cliché du... en fait, non, mais quand il trouvera la bonne, en gros, il changera, tu vois. Enfin, c'est parce qu'en fait, il n'y a personne qui l'aime, c'est pour ça. Quand il trouvera quelqu'un. Enfin, tu vois, le truc vraiment cliché de ah ouais, non, mais le bad boy, en fait, il peut avoir. Il peut se repentir, quoi, voilà, il peut avoir un arc de rédemption et de toute façon, l'amour le sauvera, tu vois. Enfin, un truc débile comme oui. ça, quoi. Mais alors c'était pas verbalisé bien sûr, mais c'est tu vois c'était ça quoi, c'était ouais mais en fait c'est un bad boy et en fait il est méchant parce qu'il est incompris et parce qu'il est malheureux parce que l'argent ça fait pas tout
ouais mais ce truc de la bonne va le sauver, enfin genre la bonne fille va lui permettre de s'extirper de ce truc là, c'est je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont écrit là-dessus là tout de suite comme ça là, je ne me remémore pas d'écrits sur le sujet, j'ai peut-être pas lu encore sur ce truc là. Mais en tout cas, c'est très dédouanant pour le mec.
Ah oui, carrément.
De se dire, j'attends d'être sauvé. Genre, mon âme doit être sauvée. Enfin, y a ce côté un peu, voilà, je suis en perdition. Parce qu'il me manque une femme pour m'occuper de moi. Enfin, en gros, voilà, il me manque Bobonne à la maison pour me remettre dans les rails humaines, on va dire. Mais du coup, c'est pas de ma faute, en fait, mon comportement. Là. Vous comprenez
oui, c'est
pas,
ça. Ouais.
Il me manque une moitié de moi-même, en fait. Genre, ouais. Je n'y peux rien. Voilà, je suis obligée d'exprimer qui je suis et j'ai besoin d'être sauvée. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que d'un point de vue narratif, avoir un personnage comme celui-là, ça pourrait servir à faire des trucs. Mmh. Même dans une série actuellement diffusée, si t'avais un personnage comme Chuck, il faudrait pouvoir... Enfin, tu pourrais t'en servir si autour de lui, t'avais des personnages qui lui permettaient d'évoluer, qui n'étaient pas que des femmes, par exemple. Mmh. De manière... Alors, attention, mon cerveau a fait un lien, accrochez-vous parce qu'il n'est pas simple, mais je vous promets, il y a un lien. je ne sais pas si tu te souviens, dans un précédent épisode, on avait parlé de la différence entre pastiche et parodie, mm-hmm. et je t'avais parlé d'une vidéo de la chaîne Calmos, enfin, de deux vidéos qui expliquaient la différence entre pastiche et parodie.
Ouais.
Donc une qu'ils ont faite sur la parodie avec les nuls et la cité de la peur, et une sur le pastiche en parlant de OSS 117. Mmh. Et ils expliquent, donc le pastiche reprend les codes de plein de choses, blablabla, et ils expliquent comment ça se passe dans OSS 117. Et quand ils parlent de OSS 117, ils se disent bien, voilà, ce personnage, il est sérieux dans son jeu de A à Z, et donc... Comme il est joué sérieusement, il est joué comme un mec des années 50, des années 60, donc il a des propos horribles qui ne passeraient pas du tout aujourd'hui. Vraiment des trucs un peu... des trucs trash.
Oui, bah oui.
Mais voilà, c'est... Et en fait, ce qui fait que le personnage, on s'y attache quand même, qu'on évolue et tout, qu'il évolue et que nous, on l'aime bien, c'est qu'en fait, tout le long du film, les gens autour de... les personnages autour de OSS 117... eux réagissent comme nous, on réagirait maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des regards désapprobateurs. Ils ont des réflexions qui le font... Enfin, voilà, qui le mettent face à ses erreurs, quoi. Mmh. Et le personnage de l'Indo-S117 est représenté de manière caricaturale, mais naïve. C'est-à-dire que le perso, il fait ça, parce que c'est comme ça qu'il a appris à faire. Puis quand on lui met devant le nez que c'est de la merde, au bout d'un moment, il finit par apprendre.
Ouais.
Et donc, du coup, tu peux avoir des personnages, et c'est là où mon lien est un peu distant, mais il est là. Tu peux avoir des personnages problématiques, je pense, dans des séries, sur certains points.
Mm-hmm.
Tu vois, qui posent questions, qui ont des remarques, des attitudes, des comportements outranciers, outrageux, voilà, qu'on trouve incompréhensibles.
Mm-hmm.
Et ensuite, les faire évoluer, les faire réagir grâce aux personnages autour qui, eux, seraient dans une démarche un peu plus proche de notre temps et qui émettraient, pousseraient la réflexion, émettraient des avis contraires à ce que le personnage dirait et qui, du coup, le ferait avancer.
Mm-hmm.
On pourrait avoir un mec aussi horrible que possible que Chuck
mm-hmm.
si ensuite les personnages autour lui permettaient d'évoluer, de faire avancer et que c'était pas la caractéristique principale de ce personnage.
Oui.
Voilà. Chuck, lui, il réside que là-dessus. Il n'y a pas d'évolution possible. En fait, il est juste horrible pour être horrible. Il est horrible. Sa caractérisation, c'est « il est horrible ». Il n'a pas de qualité de rédemption autour de ça, tu vois.
Mm.
Alors que, comme l'explique Calmos dans la vidéo sur SS117, il est horrible dans ses propos, mais à côté de ça, il est courageux. Il est manuel, il arrive à faire plein de trucs, il a une capacité d'apprentissage élevée. Ils expliquent que le personnage de SS117 n'est pas que ça, et sa qualité première, c'est pas sa caractéristique première plutôt, c'est pas juste d'être horrible.
Mm.
Et donc ce qui fait qu'on s'attache quand même à ce perso. Là, donc aucun des personnages du pilote on s'y attache. Enfin, vraiment, moi là, j'ai coupé l'épisode, j'ai dit oui, bon bah. À la limite, oui, je pourrais laisser diffuser ça, mais je m'en ficherais, en fait. Là, ils mourraient tous dans un accident d'avion au bout de la 6e saison. Je crois que je m'en ficherais complètement, en fait.
Mm.
Je ne pas m'investir dans ces personnages. Et en plus, certains qu'on nous présente, ils sont caractérisés par un trait qui est tout le temps le même et qui, d'après ce que tu dis, ne change jamais. Et c'est juste le fait d'être immonde. Genre une ordure.
Bah...
Un pauvre mec.
En fait, c'est vrai que... Bon, là, c'est que le pilote, donc forcément, on se dit qu'ils n'ont pas le temps de montrer plusieurs facettes de tous les personnages.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que dans mon souvenir, ça ne change pas trop. C'est juste que, tu vois, il y a des trucs, par exemple, bah, Dan, qui est un peu présenté comme le gentil garçon, mais le vrai gentil garçon pour le moment.
Ouais.
Et ben en fait, si je me souviens bien, après, il fait aussi des trucs de connard. Parce que, alors, est-ce que c'est... pour montrer que justement, tu vois, même les âmes pures, en gros, en contact avec ce milieu-là, et ben, ils deviennent tous des connards, c'est possible.
Ouais.
Mais voilà, il y a Blair, je crois, ils essaient de montrer qu'en fait, c'est pas juste une peste, mais parce que, ben, en fait, ce qu'on voit un peu d'ailleurs dans l'épisode, mais ben, elle a une relation super conflictuelle avec sa mère,
mm-hmm.
Qui la rabaisse tout le temps, voilà.
Oui, c'est vrai.
Puis après, on apprend qu'en fait, Blair, elle a été élevée par sa nounou, avec qui, enfin de qui elle est très proche, c'est un peu la bonne à tout faire, mais ouais, que d'accord. Concrètement c'est elle qui l'a élevée et qu'en fait c'est un peu elle sa mère,
mm-hmm.
et donc qu'elle est proche de ce personnage là, mais que en gros sinon c'est une peste parce qu'elle est malheureuse chez elle et qu'on l'a, tu vois, on lui a pas donné l'amour dont elle avait besoin quand elle était petite. Enfin voilà, tu vois les trucs encore un peu clichés de en gros la petite fille de riche en fait, ses parents se sont forcément pas occupés d'elle. Et donc, forcément, elle est devenue une peste, quoi.
Ouais.
Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Donc, en fait, ils essayent, dans mon souvenir, de donner quand même plusieurs facettes à leur personnage.
Ouais.
Mais c'est téléphoné, c'est cliché au possible. Et en plus, je trouve pas que ça... que vraiment, ça serve les personnages. Parce qu'en fait, ok, peut-être que... tu peux dire, ah, ok, la pauvre, c'est vrai que tu peux compatir un peu en disant, bah oui, mais c'est vrai que ses parents ne sont pas occupés d'elle, ils l'ont laissée avec la nounou, oh là là, la pauvre petite gamine, ok. Mais est-ce ouais. que c'est une raison pour devenir absolument une connasse? Non. Non, mais tu vois, enfin je veux dire, tous ceux qui ont une enfance malheureuse ne deviennent pas des connards, quoi.
Bah, ça me rappelle... Putain, je suis dans le multi-référentiel aujourd'hui, c'est dingue. Ça me rappelle un épisode de Central Podcast, je ne sais pas si tu écoutes.
Non.
C'est un podcast sur Friends, qui est excellent, ouais. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et dans plusieurs épisodes, mais dont un en particulier, Alors, je ne saurais pas du tout te dire lequel, mais voilà, ça vaut le coup d'écouter si jamais tu as le temps. Dans plusieurs épisodes, ils mentionnent, enfin, elle mentionne, parce que ce sont deux femmes qui font le podcast, elle mentionne Phoebe et sa sœur, Ursula, ouais. qui sont jumelles et qui ont eu toutes les deux les mêmes conditions de... Enfin, les mêmes, la même enfance.
Oui.
Elles ont grandi dans les mêmes conditions, voilà. Et donc, une enfance horrible. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Friends, déjà, on vous invite à aller écouter notre podcast sur Friends, notre épisode. Ensuite, à aller voir Central Podcast. Mais sinon, succinctement, Phoebe et Ursula sont sœurs jumelles. Phoebe fait partie des personnages principaux. Ursula, on la voit que très peu. Mais elles ont eu une vie horrible, une enfance affreuse. Leur mère, qui était une droguée, s'est suicidée quand elles étaient petites. Elles ont vécu dans la rue. Enfin, elles ont fait, voilà. On apprend tous les jours un peu plus sur elles, mais elles n'ont pas eu d'enfance normale. Elles n'ont jamais appris à faire de vélo. Elles savent même pas quand est-ce que... Enfin, Phoebe ne sait même pas vraiment quand est-ce qu'elle est née, son jour de naissance exact. Elle a jamais vu son acte de naissance. Enfin, elle a une vie affreuse. Et Ursula, donc sa sœur jumelle, a eu la même vie. Et toutes les deux sont les deux faces opposées d'une pièce. Phoebe, elle a choisi, comme elle a vécu plein de négatifs, d'être dans la résilience et du coup de donner du positif aux gens pour changer sa vie. Alors que Ursula est dans tout l'inverse. Elle a vécu du négatif et donc elle va donner du négatif. Et dans Central Podcast, elles en parlent vachement bien et elles expliquent que apparemment, c'est les deux façons que tu as de réagir à des traumas. Soit tu décides d'en prendre ton parti, entre guillemets, et de dire bon, bah maintenant j'avance et moi je reste positive. Ou au contraire, de rester dans un cercle vicieux de négativité, de rancœur, de victimisation et tout. Et donc tu renvoies ça aux autres. Et donc là, ce que tu dis sur le personnage de Blair, c'est un peu ça, c'est qu'elle, elle a fait le choix, mais de renvoyer du négatif parce qu'elle a vécu du négatif. Donc quand tu dis, effectivement, tous les gens qui ont une enfance difficile et douloureuse ne deviennent pas des connards et des connasses en grandissant, oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais dans la série, ils ont fait le choix de la facilité parce que ça donne une caractérisation facile, un archétype de personnage qu'on a déjà vu 40 fois et qui reste un peu, du coup, un peu cliché, pas trop creusé, facile à faire, voilà quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Si on devait résumer, Gossip Girl, pas trop notre cam.
Non, voilà, c'est... Mais moi, parce que je pense que, en fait, Gossip Girl, c'était vraiment le produit de son époque.
Ouais.
Et c'est ça. Et donc, c'est pour ça que... Bon, le reboot, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas marché. Après, même si je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, en fait, du reboot, mais...
Je
pense que ça a marché parce que c'est sorti au moment où ça pouvait marcher. Maintenant, honnêtement, je pense que les gens cherchent autre chose en regardant des séries, même les jeunes. Et ça revient d'ailleurs un peu sur ce qu'on disait dans je ne sais plus quel podcast, mais que maintenant on est des tels consommateurs de séries et on a un tel choix de séries que on peut se permettre d'être plus exigeant et en plus la qualité des récits qui nous sont proposés est bien meilleure qu'au début des années 2000, je trouve. Et donc, je pense vraiment que les gens ne cherchent plus ça, en fait. Ce qu'on nous propose dans Gossip Girl, c'est trop creux, en fait, pour moi, pour pouvoir aujourd'hui avoir l'effet que ça a eu à l'époque, quoi. Parce qu'il y avait vraiment eu un engouement. Enfin, Gossip Girl, c'était...
C'était ouf.
The show, quoi. À l'époque, c'était the truc.
C'est vrai. Moi, je crois... Alors, de manière assez rigolote, il me semble que la conclusion où on a dit maintenant, on a tellement de choix qu'on serait un peu plus compliqué, c'est quand on a parlé Newport Beach.
Oui.
Et du coup, ce qui fait que la boucle est un peu bouclée, genre le même style de série à quelques années près, qui, du coup, présente les mêmes défauts, en tout cas, certains défauts communs, qui font que, on n'y retournerait pas aujourd'hui. Et que c'était deux séries produites de leur époque, effectivement, comme tu l'as dit, qui nous vendaient certaines choses, qui maintenant passent plus. Et c'est pour ça, peut-être, moi non plus, je n'ai pas vu le reboot, donc je ne peux pas dire, mais c'est peut-être pour ça que le reboot de Gossip Girl n'a pas fonctionné, n'a pas trouvé son public et s'est fait annuler au bout de deux saisons. Si on a offensé des fans de Gossip Girl, on est désolé.
Ouais, pardon.
On a un peu tailladé le... on a surtout tailladé Chuck, hein, on va pas se mentir.
Après, c'est, de toute façon, c'est toujours très subjectif, hein, je veux dire.
Oui, ah oui, on ne détient pas la science infuse, hein, c'est notre avis. Mais voilà, et puis on est toujours, si vous voulez commenter, partager, on est toujours prête à échanger. D'ailleurs, merci à vous tous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, c'est assez fou. Il y a un épisode qui a bientôt dépassé la barre des 200 écoutes, à lui tout seul, donc c'est hallucinant, donc merci. Et puis, on va essayer de vous retrouver bientôt. Voilà. Moi, écoutez, je vous dis à plus, à ciao, bonsoir. Et puis, je laisse Pauline faire sa petite fermeture comme d'habitude. Tu pensais que j'allais oublier, mais non, j'ai pas oublié.
Ouais, je t'ai dit que c'est bon, là, le temps était passé, t'avais zappé.
Non, j'aime toujours ta petite fermeture. Tu mets ton petit twist personnel, c'est nickel. Voilà.
Alors, merci à tous et à toutes. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Sister's Corner.
Voilà, c'est bien ça, moi j'aime bien.